RMC.
Oh, c'est gonflé. Oh, mortel. Donne-moi ton short.
Basket time.
On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie.
C'est fini. Champion d'Europe de basket, messieurs, dames. Jacques Monclar est aux anges. On est tous aux anges.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis en podcast sur rmc.fr avec la Dream Team du jour, Stephen Brun, Sacha Alix et Fred Weiss. Salut les gars.
Bonjour.
Salut mon petit Pierrot.
C'est un spécial Nando de Colo. Voilà un bel intitulé quand même. Ça va attirer, je suis sûr, tous les amoureux de basket. Il va y avoir un record de téléchargement. Pourquoi Nando? Parce qu'il est en haut de l'affiche. Vainqueur et MVP de la Leaders Cup, meilleur scoreur all-time des Coupes d'Europe. On va parler de Nando avec ses trois questions. Nous allons décliner ce podcast de la façon suivante. Nando de Colo va-t-il sauver la saison de l'ASVEL ? L'ASVEL qui peut encore faire une très bonne saison, attention. Hein.
Bien sûr.
Pas être alarmiste.
Ça fait.
Quel rôle pour Nando en équipe de France ? Coupe du Monde et Jeux Olympiques, bien sûr. Et là, j'aimerais que vous vous engagiez, messieurs. Ne soyez pas, n'essayez pas
on
de
une émission engagée. On a une émission engagée.
La chèvre et le chou, d'accord.
On peut ménager un des deux.
Soit la chèvre, soit le chou,
d'accord.
Alors d'ailleurs, Nando serait plutôt la chèvre ou le chou?
Bah, celui qui mange les autres, la chèvre.
La chèvre.
Bah oui.
Très bien. Et puis dans la
goat,
partie
c'est le goat.
Historique,
c'est le goat, exactement.
Vous me parlerez de ces Français qui ont une grande carrière mais qui ne se sont pas imposés en NBA. Il n'y en a pas tant que ça, ça va être très intéressant.
Je suis très curieux d'entendre celui qui a choisi Sacha Alix.
Ouais, moi aussi.
Rajon Rondo.
Alors le quiz sera exclusivement consacré à Nando de Colo, donc j'espère que vous avez révisé votre Nando.
Ouais.
Oh, je vois Sacha qui est en train de se cacher.
Je triche à l'avance, moi, c'est moi.
Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr, spécial Nando de Colo, c'est parti.
Et soir de record ce soir à l'Astrobal, Nico, puisque Nando de Colo vient de devenir officiellement le meilleur marqueur de l'histoire des Coupes d'Europe. Il dépasse le grec Nikos Galis en dépassant donc la barre des 4904 points. Nando de Colo déjà auteur de 7 points ce soir. Il vient d'inscrire un panier à 3 points.
Et le premier trophée de l'année pour l'ASVEL. Victoire 83-74 avec un MVP à venir. Nando de Colo qui signe aussi son premier trophée pour son retour en France l'été dernier. 20 points, 4 bons, 3 passes pour l'international français. Victoire 83-74 de l'ASVEL.
Est-ce qu'on peut dire que Nando de Colo c'est le LeBron James des Coupes d'Europe?
Un petit peu.
Et ils ont battu leur record presque simultanément après.
Exactement.
Tout.
Exactement.
Non?
Ouais, par contre, il y en a, ça fait plus de bruit que l'autre, médiatiquement.
Même en France.
Même en France, ouais.
Mais ça a été mieux géré par l'Euroleague que par la NBA, quand même, ce record.
C'est-à-dire?
Bon, allez, c'est le gère. On n'a pas arrêté le match, on n'a pas fait. On n'a pas fait une heure et demie d'interruption.
Problème, c'est que l'Euroleague n'a pas arrêté le match parce que ce n'est pas un record d'Euroleague. En fait, c'est un record
exactement.
De Coupe d'Europe. Et comme il y a beaucoup de FIBA.
Et un petit hommage, tout à fait.
Par l'ASVEL. Une vidéo qui a été mise, rien à voir avec l'Euroleague.
Pendant le match, quand même.
Pendant le match, oui, sur un temps mort. Par contre, quand il va battre le record de l'Euroleague, là, je pense qu'il y aura
quelque chose.
Oui, je pense qu'il va le battre. Oui.
Parce que c'est quand même un sacré champion, ce Nando de Colo. Et c'est pour ça qu'on lui consacre ce podcast. Alors, la question est la suivante. Va-t-il sauver la saison de l'ASVEL? Alors, c'est vrai que l'ASVEL avait fait un recrutement dont les deux têtes d'affiche étaient Nando et Geoffrey Lauvergne. Sauf que Geoffrey Lauvergne, saison terminée rapidement. Et donc, c'est vrai qu'il porte un peu cette équipe. Alors, il n'y a pas que lui à l'ASVEL. Mais tout de même, l'ASVEL qui est 7e en Betclic Elite, mais qui vient de remporter la Leaders Cup. On a retrouvé un Nando de très haut niveau ces dernières semaines, Sacha.
Ouais. Bah, je pense que déjà la saison de l'ASVEL, elle est un petit peu sauvée parce qu'il y a déjà un trophée à la clé dans une course qui est plutôt à deux, je trouve, dans le championnat de France entre Monaco et Boulogne-Levallois avec le phénomène Wembanyama. Ramener déjà un trophée sur cette Leaders Cup, je trouve que c'est bien parce que Monaco avait l'air armé pour essayer de tout rafler. Et derrière, c'est vrai qu'il est très performant puisque c'est lui le meilleur scoreur sur chacune des rencontres. Et on est sur deux semaines où clairement il porte l'équipe. Maintenant, il faut voir si ça peut se retranscrire en Euroleague parce que c'est là où l'ASVEL a le plus de difficultés. Ils sont dans le championnat de France, on sait que ça ne se joue pas à énormément de nombre de victoires d'écart avec Monaco et avec le top. Donc, il est en train de prendre l'équipe sur son dos, j'ai l'impression, et ça se passe plutôt bien. Ramener un trophée comme ça sur une compétition qui arrive en plus à un moment où l'agenda est très chargé, ça montre qu'il a le leadership et il a la science du jeu qui fait toujours aussi mal.
Quel serait, alors on va parler essentiellement, je pense, de championnat de France, mais quelle serait une saison réussie? Que serait une saison réussie pour l'ASVEL en Euroleague, Fred?
C'est difficile à dire.
Parce qu'on voit bien qu'ils ne peuvent pas exister pour le titre, pour le Final Four, on le voit bien. Maintenant, ils sont avant-derniers, mais avec un bilan qui n'est pas honteux. Ils sont à 8 victoires, 16 défaites. C'est-à-dire que, ils bataillent avec des équipes comme le Bayern, comme Milan, qui était annoncé comme une grosse écurie. Bon, à 11 victoires, on est 11e. Et c'est l'Anadolu, le tenant du titre. Ils ne sont pas non plus complètement largués dans cette compétition.
Ils ne sont pas largués dans la compétition, mais ce qui est intéressant, c'est de faire des coups. Alors, évidemment, ils ne peuvent pas exister comme Monaco peut le faire en Euroleague, mais par contre, gagner des matchs, faire des victoires références, ça peut être intéressant, mais concrètement, pour l'instant, ils ne sont pas armés, et vu le recrutement initial, ça partait très difficilement.
Qu'est-ce que vous attendez de Nando sur la fin de saison d'Euroleague là? Qu'est-ce qu'il doit faire?
Qu'il fasse du Nando?
Qu'il fasse du. Oui, après l'Asvel, je pense, a tiré une croix sur ses ambitions de top 8 en Euroleague. Moi, j'avais tablé sur 12 ou 13 victoires avant le début de la saison, donc c'est encore réalisable. Maintenant, les matchs d'Euroleague vont servir à la préparation de la fin de saison au championnat de France, comme Fred l'a dit, faire des coups à domicile ou pourquoi pas à l'extérieur. Ils ont tapé des gros cette année, ils ont tapé Olympiakos, ils ont tapé Barcelone. Maintenant, l'équipe, elle n'est pas armée, elle n'est pas prête collectivement encore pour prétendre à jouer sur les 8 premières places. Après, on a vu que Nando, pour moi, est un joueur de qualité supérieure dans le championnat de France. C'est son 19e titre, je crois, la Leaders Cup en carrière. Et sur les grands matchs et sur les matchs couperets, mec, il est injouable. Il est injouable. On l'a vu les 3 matchs à la Leaders Cup. Il a fait ce qu'il a voulu.
Des passes dans le dos, je me rappelle. Une sur Youssef, qui est juste monstrueuse.
Elle est fantastique. C'est un mec qui est, pour moi, c'est pas son niveau, le championnat de France, Nando Docolo. C'est trop fort. C'est trop fort. On l'a vu. Il a fait mumuse avec tout le monde. Les matchs importants, les paniers importants, les compétitions importantes à aborder. Il sait ce que c'est. Il a connu le très, très haut niveau. Et donc pour moi, l'objectif de l'Asvel, c'est d'arriver en forme et sur une belle dynamique sur la fin de saison pour retourner en finale du championnat de France et pour essayer de taper Monaco, parce qu'ils sont à 0-4 cette saison face à Monaco, et on a tous envie de voir cet énième remake des finales entre Monaco et Villeurbanne.
Et Boulogne a son mot à dire quand même, non?
Boulogne aurait son mot à dire si tout le monde était là. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de blessures, beaucoup de pépins physiques, et c'est vrai que sans Waters, déjà, c'est pas du tout la même équipe. C'est lui qui tient un petit peu les rênes du jeu des Mets, donc c'est compliqué quand il n'est pas là. Ils ont leur mot à dire, mais au final, pour moi, les deux équipes qui doivent aller en finale par rapport à leurs objectifs, par rapport à leurs ambitions, par rapport à leur budget, par rapport au roster, c'est forcément Asvel et Monaco.
Et puis, Sacha.
Ouais, vas-y, Sacha.
Moi, je suis d'accord. Après, effectivement, l'Asvel, c'est pas facile comme situation. Ils perdent énormément de joueurs cet été. Et c'est vrai que tout le recrutement était basé sur cet axe Nando, Geoffrey Lauvergne. Et finalement, il est pas là. En fait, c'est difficile de définir des rôles parce que il y a plein de mecs qui ont des cartes à jouer dans cette équipe. Tu peux penser à Ponce, à Bost, qui sont des joueurs qui ont Bost, il a beaucoup de vécu en Coupe d'Europe. Il connaît ça bien. Obaswan, qui est un jeune joueur qu'il faut développer. Tu sais, je pense qu'il y a plein de trajectoires qui se croisent et c'est pas facile de trouver une très bonne hiérarchie. Et effectivement, comme l'a dit Steve, je pense que Nando, il doit survoler, c'est lui qui doit vraiment porter ça, il doit mettre tout le monde au diapason, et on retrouve un style de jeu qui n'est pas encore très abouti.
C'est mieux depuis l'arrivée de Dibos quand même, ça a changé beaucoup de choses.
Mais je trouve que, alors, c'est pas aussi moche que ça pouvait être l'an dernier. Monaco, quand il y avait le début de cet axe-là l'année dernière, je trouvais que c'était moche à avoir joué, et puis maintenant ça commence à tourner vers le bon. Peut-être que l'Asvel peut aussi prendre ce tournant-là et que ça peut s'améliorer.
Monaco ça tourne vers le bon, tu dis?
Aujourd'hui, ça gagne plus de matchs que. Enfin, moi, je trouve que c'est plus dominant et ça ressemble plus à du beau jeu.
T'aimes le jeu qu'ils proposent offensivement?
Attends, t'es en train de dire que Monaco, c'est du beau jeu?
C'est pas le pire. Par rapport à l'année dernière, moi, je trouve que c'est plus beau. Il y a des choses qui me paraissent.
Je pense qu'ils confondent efficacité et beau jeu.
Tu me mets cette condescendance de côté, là, Stephen, et tu nous dis ce que t'as sur le cœur. Voilà. Donc, Monaco, c'est pas du beau jeu, Monaco.
Monaco, c'est dégueulasse à regarder jouer.
Voilà, mais dis-le nous. Voilà.
C'est moche. Sauf qu'ils ont des joueurs de qualité supérieure avec Mike James, Okobo et Jordan Lloyd qui font la différence sur du 1 contre 1, sur de l'isolation, sur du.
Mais c'est plus moche que l'an dernier. Parce que l'an dernier, c'est vraiment Hero Ball de Mike James.
Non, mais ça va, il y avait que lui. Maintenant, tu vas rajouter Okobo et Jordan Lloyd.
Au moins, le ballon tourne un peu. Il y a des solutions, il se passe des choses. Donc, ok, que ce soit un basket.
C'est un jeu très statique.
Objectivement, c'est un jeu très statique. Et c'est individuel. J'ai j'ai pas de mal là-dessus, mais c'était vraiment une caricature, je trouve, la saison dernière. Alors oui, il y avait que ça à disposition, mais je veux dire, c'était vraiment horrible. Là, au moins, t'as l'impression que ça score, ça gagne des matchs, au moins, même si c'est moche et que c'est individuel.
Ça gagne des matchs parce qu'ils ont une équipe de mutants, surathlétiques, surarmés à toutes les positions. Après, mais je suis pas en train de dire que ce jeu-là de Monaco ne peut pas gagner, puisque l'Alain Doulou, l'année dernière, avait un peu les mêmes bases que Monaco, avec une base arrière, Misic, Larkin, omnipotent.
Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut pas confondre efficacité et beauté du jeu, ça n'a rien à voir.
Après, Monaco, Sacha Obradovic, il a quand même avalé quelques couleuvres, hein, par rapport à il y a 10 ans quand il était coach à Kuban et à l'Alba Berlin. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il pouvait proposer. Donc, le jeu de Monaco, parfois, il est compliqué à regarder. On l'a vu à la Leaders Cup. Alors, les gens me font croire que ça ne les intéresse pas, la Leaders Cup. Enfin, ça ne les intéresse pas. La semaine d'avant, ils se sont fait taper à Bourg-en-Bresse. On va me dire que ça ne les intéressait pas en championnat.
Ouais, deux défaites de suite contre Bourg-en-Bresse, ça veut dire quelque chose.
Où tu prends Sampion, où Mac James bazarde son équipe à la fin, il se fait virer, il shoot 25 fois. Donc, après, pour revenir sur l'Asvel.
C'est les deux super teams, oui. C'est surtout ça que je veux dire.
Les Villeurbanne doivent faire une série parce qu'à un moment donné, il va falloir prendre l'avantage du terrain.
Parce que là, pour l'instant, l'Asvel est 7e.
7e, ils sont à 2 matchs de Boulogne.
Et pourquoi, comment
on explique
ça? C'est trop dur de faire les deux, compètes, ils sont pas assez armés.
C'est compliqué. Déjà, mauvais recrutement au départ. Oui. Parker Cartwright, là, c'était trop faible. Et l'arrivée de Dibos décharge Nando De Colo de la montée de ballon.
Donc, Nando est meilleur depuis l'arrivée de Dibos.
Bon, il a fait quelques bons matchs avec Jackson Cartwright.
Il est toujours bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est moins fatigué de remonter le ballon, il a moins de... l'organisation de l'équipe, c'est Dibos aussi.
Surtout, les défenses sont concentrées sur Nando, mais ils savent que s'ils mettent 100% sur Nando, Dibos est capable de mettre quelques pantons. Nando est capable aussi d'aller se mettre dans un corner et d'avoir des fixations passes pour tirer.
Tout le monde a levé son niveau de jeu aussi, parce que même que je voyais Alex Taïus, par exemple.
Très fort.
Qui, quand il est arrivé, on pensait qu'il était sur la jante. Et là, il apporte énormément. Après, il est très complémentaire avec Pan, en plus.
Il n'avait pas joué depuis 6 mois. Et
bien sûr.
Ça a mis beaucoup de temps à qu'il arrive à son niveau. Après, c'est très complémentaire de Youssouf Afal. Moi, je pense que les Villeurbanne, ils vont faire une série. Ils vont terminer 3e ou 2e. Et qui est la meilleure place, parce que tu t'évites Monaco, qui va terminer premier de la saison régulière.
Il ne faudrait pas que Monaco retrouve Bourg-en-Bresse en play-off. Ça peut arriver.
Après, les Monégas, sur une série, il faut quand même se les taper. Hein.
Rappelez-moi la formule de
1 contre 8, 2 contre 7. 3 contre 6.
Oui, mais au meilleur de combien ?
Meilleur des 3, les quarts de finale, 3, et meilleur 5, des 5, demi et finale.
Ouais.
Voilà, donc il faut gagner 2
sur les quarts, c'est... quand il y a un coup à jouer, en général, on pense que c'est sur les quarts, parce que sur 3 matchs,
il y a 2 matchs à gagner, quoi.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Bon. Mais les Villeurbanne, encore une fois, ça fait un titre de plus, malgré
tout. Est-ce qu'il est le meilleur joueur du championnat, Nando, aujourd'hui ?
Nando De Colo ?
Il y a Wembanyama, quand même, donc c'est difficile. C'est difficile de juger entre les deux, mais moi, j'aurais un petit coup de cœur pour Nando, oui.
Alors, attention, en termes de chiffres, Wembanyama marche sur le championnat. Ouais, mais le problème, c'est que la configuration d'équipe de Boulogne fait qu'il a tous les ballons et que c'est une saison pour qu'il pète les stats.
Ouais, mais sauf qu'ils sont quand même deuxième.
Mais je les vois descendre quand même.
En termes de game winner, est-ce qu'aujourd'hui Wembanyama est au-dessus de Nando en championnat de France?
Si tu veux savoir à qui je donne le ballon à la fin.
Non, mais si tu regardes juste les matchs des deux équipes, quoi. Est-ce que Wembanyama a plus d'influence sur les résultats de son équipe que Nando, ou l'inverse?
Pour moi, le meilleur joueur des Mets, c'est Waters.
Donc c'est pas Wembanyama.
Après, moi c'est un peu différent. Je trouve ça violent ce que tu dis, Fred, quand même. C'est
le joueur clé, s'ils veulent des résultats, c'est Tremont Waters.
J'ai un peu exagéré ce que je voulais dire, mais ce qu'a dit Stéphane, c'est exactement ce que je pense. Ouais. Le joueur clé, si tu veux des résultats, c'est Waters.
Impact sur le terrain, c'est vrai que c'est difficile d'aller au-delà de ce que offre Victor Wembanyama. Maintenant, en termes d'application pure du QI basket sur un terrain de basket, c'est vrai que Nando De Colo, pour moi, il est au-dessus de tout ce qu'il y a dans le championnat de France. C'est une science du jeu parfaite. Enfin, je veux dire, tout est calculé, tout est prévu à l'avance.
Il a une telle maîtrise du jeu, maîtrise des arbitres, une telle maîtrise pour provoquer les fautes.
S'il avait le physique de Wembanyama en plus, tu serais vraiment dans un monde parallèle.
Va jouer à la console.
Non, mais en même temps, peut-être que en 10 ans, Victor sera comme ça. Hein.
Non, mais
c'est juste
qu'il
manque de vécu. Il a que 18 ans. Il ne faut pas oublier quand même que le mec a 18 ans et ce qu'il produit, c'est assez incroyable.
Il y en a un qui impacte par son physique, par son talent, il n'y a pas de souci. L'autre, il arrive à impacter par son expérience, sa connaissance et par ce côté chirurgien, finalement.
D'un truc plus comparable, aujourd'hui Nando est au-dessus de Mike James pour vous?
Bah, je vais pas te mentir, moi je préfère jouer avec Nando De Colo qu'avec Mike James.
Je suis plutôt d'accord
moi,
avec ça.
Je vais pas te mentir, je préfère jouer largement avec Nando De Colo qu'avec Mike James.
Mais ça veut pas dire qu'il est forcément meilleur, parce que l'autre.
Bah, non, en fait,
moi
aussi,
j'ai quand même. Attends, on compare deux joueurs fantastiques, mais qui ont pas du tout les mêmes ouais. qualités. Mais en termes de leadership et d'impact dans une équipe, je pense que Nando De Colo est à des années-lumière de ce que proposait Mike James dans une équipe et dans un
club. Est-ce qu'il a apprécié à Monaco, Mike James.
Sauf qu'il a énormément progressé. Je trouve que dans le leadership.
Bah, des fois, il quitte les matchs.
Ouais, parfois, il quitte les matchs, mais avant c'était quasiment tout le temps.
Oui.
Il est beaucoup plus constant. Je trouve bien meilleur cette année qu'il a pu l'être.
J'ai l'impression qu'on est en train de vivre une saison sans drama. Pour l'instant, il y a pas eu de drama encore.
Pour l'instant, parce que
Mike James.
Il y en a eu quelques-uns, quelques boudages, quelques. Je fais la tête contre l'arbitre.
Il a pas disparu comme il avait fait au CSKA Moscou en plein milieu de saison.
Non, il a pas disparu. Mais après, enfin, il a quand même la wild card à Monaco. Hein. Enfin, des fois, il joue 30 minutes alors qu'il passe totalement au travers. Après, il a la chance d'avoir.
C'est un peu le Wembanyama de Monaco.
Il a la chance d'avoir deux mecs autour de lui qui sont Jordan Lloyd et Elio Kobo qui aussi, quand Mike James disjoncte et a plus envie de jouer, et ben Monaco existe toujours parce qu'il y a d'autres beaux joueurs autour. Mais on parlait de coaching. Et des mecs qui avalent des couleuvres sur des principes de jeu, va s'en coller cette année. La philosophie de Boulogne Metropolitans, elle est quand même à des années-lumière de la philosophie de Vincent Collet. Hein. Mmh. Quand il voit un garçon prendre 25 tirs, je ne suis pas sûr que Vincent Collet, il a compris,
il est venu, il a compris le projet. Il a connaissance de cause.
Bien sûr, il a compris le projet. Et puis, on le sait tous plus ou moins que ce club de Boulogne Metropolitans, l'année prochaine, je ne sais pas s'il sera encore membre du championnat de France. Donc,
et pour finir revenir à Nando, puisque c'est l'objet de notre podcast du jour, est-ce que Nando va apporter le titre à l'ASVEL selon vous? Comment vous voyez la fin de saison? Est-ce que vous pensez que l'ASVEL sera championne de France avec et grâce à Nando?
Honnêtement, il n'y a pas longtemps, j'aurais dit non.
Bah, c'est possible. Enfin.
Mais maintenant, vraiment, avec l'arrivée de Dibos, ça réorganise tout. Tout le monde est plus en confiance. J'ai vu un Charles Cahudi comme je n'avais pas vu depuis quelques temps.
Encore une fois, ces mecs-là ont tellement d'expérience et sur les matchs c'est importants, ça. Sont capables de proposer
mais
un
David
gros basket.
Aussi,
oui.
C'est incroyable ce qu'il propose.
David Laïti revient bien.
Il revient bien. Ouais. En fait, il fait toujours les bonnes choses au bon moment, en fait, tout simplement. Et moi, j'aime beaucoup la complémentarité à l'intérieur. Vraiment, Taïus et Fall. Enfin, c'est difficile de défendre. Un exemple, sur les pick and roll, ils étaient un peu en difficulté. Et avec Fall, ils ont fait rentrer Taïus, ça a tout changé, ce qui a permis de gagner assez facilement.
Donc plutôt oui pour toi, Fred,
plutôt,
Sacha.
Plutôt possible, quoi.
Bah, ils sont en train de me convaincre et c'est vrai que je trouve une configuration où on a l'équipe un peu caricaturale des gros talents, des superstars, etc. face à une équipe qui me rappelle un petit peu ce que peuvent apporter les Spurs sur ce genre de compétition et de play-off parce que c'est des anciens, ils ont de l'expérience comme tu l'as dit Steve, et vous êtes en train de me faire basculer et je me dis est-ce que
les Briscards... T'es un garçon facile, Sacha, t'es un garçon facile.
Non mais moi j'étais un peu comme toi, c'est vrai que sur le début de saison... quand tu les vois jouer, tu dis ah ouais c'est un peu bizarre, tu retrouves pas ce que t'as envie de retrouver. Ça prend la bonne direction. On n'a pas trop parlé aussi d'Antoine Diot, qui je trouve peut bien compléter. Je trouve
tu as complètement raison.
Il aide bien aussi Nando De Colo, parfois qui veut être un peu plus scoreur et du coup il prend plus de gestion, etc. Et ça joue
après,
bien avec entre les deux.
Sur la fin de saison, je pense que Monaco a les clés en main. Sur ce qu'ils veulent faire sur le championnat de France. Tout va dépendre de ce qui se passe en Euroleague. Parce qu'on est sur
vont au Final Four, peut-être
On est sur deux équipes qui ont des objectifs différents. Monaco a tout basé.
Quel est le calendrier
sa saison sur l'Euroleague, c'est-à-dire.
Final
Four, ça se termine, c'est le week-end du 18-19-20 mai.
Et donc, il reste quoi après en championnat de France?
Après, il doit rester quelques matchs.
Donc il doit rester deux matchs, trois
matchs de championnat. Et après,
ils peuvent très bien gérer les deux. Ils peuvent très bien gérer les deux.
Sauf que quand t'as. Et là, on revient encore à parler avec le Paris Saint-Germain, Pierrot. Quand tu as basé ta saison avec comme unique objectif l'Euroleague, tu as quelques mecs comme Monaco, et c'était qu'à l'année dernière, qui, quand l'Euroleague s'arrête, ils n'ont peut-être plus trop envie de se bouger les fesses pour être champion de France.
Plus aux Maldives que de champion de France.
Exactement. Alors cette année, ils avaient essayé de recruter des Français justement pour avoir cette implication totale jusqu'à la fin de saison sur le championnat de France. Et des garçons comme Ouattara, Okobo, Strazel, Makoudou, qui ont peut-être, eux, plus d'importance sur le championnat de France. J'espère que ça va faire la maille, mais j'ai l'impression que les Villeurbanais, eux, sont un peu plus axés sur le titre de champion de France en fin de saison que les Monégas. À voir comment ça tourne en Euroleague pour
Monaco. Plutôt oui aussi, toi.
Moi je pense que les Villeurbanais peuvent faire
un coup. Ils peuvent le
faire, ouais. Je pense que les Villeurbanais, après, ils essayent de voir rajouter un joueur. Parce que je pense qu'ils ont besoin un peu d'un mec à l'intérieur athlétique bondissant parce qu'ils sont souvent dominés face à Monaco au rebond offensif qui est une équipe de mutants et je pense qu'ils ont besoin de ramener un mec sur le poste 4 un peu athlétique donc à voir qui y rajoute mais les Villeurbanais s'ils terminent bien après c'est la dynamique du moment hein, si oui, tu finis ça. La saison sur une série et que t'es bien tout peut arriver.
Rétine Obasone tu l'as à l'œil toi?
Je l'ai à l'œil ouais. Il a le compas dans l'œil Rétine.
Allez la deuxième
quelle nationalité
belge
bravo
la deuxième partie de ce Basket Time spécial Nando. Rizzo concerne l'équipe de France.
Je pense que sur la finale, il y a eu des mauvais choix tactiques, il y a eu des prises de décision qui n'ont pas été bonnes. C'est peut-être là où j'aurais pu dire quelque chose en interne.
Donc elle fait peur, cette équipe de France. Je pense qu'elle fait peur, même aux Américains.
Mais derrière, on est une équipe qui se connaît et qui veut aller maintenant jusqu'en 2024 pour aller chercher la médaille d'or. C'est évidemment l'objectif. Je pense qu'on a une équipe sur le papier qui est capable de faire de grandes choses.
Alors, quel rôle pour Nando De Colo en équipe de France ? Voilà une question passionnante, parce que c'est vrai qu'il y a deux échéances qui arrivent. C'est la Coupe du Monde et ce sont bien sûr les Jeux Olympiques à Paris en 2024, un vrai équilibre à organiser pour Vincent Collet, puisqu'il faudra intégrer Victor Wembanyama, il faudra gérer cette difficulté au poste de meneur, il faudra répartir le ballon, les shoots importants entre Fournier, Nando, éventuellement, on ne sait jamais, Joel Embiid, donc tout ça est plein d'incertitudes. Non mais rigole pas.
Je rigole, parce que c'est ouais, éventuellement
Joel Embiid. On n'est pas encore sûr à 100%,
on n'est pas sûr,
même si Steve nous assure qu'il sera là, on ne peut pas en être sûr, lui-même a dit que... Non mais... T'as toujours été très confiant en fait qu'il rejoigne l'équipe de France.
Je reste persuadé que s'il joue, je reste persuadé que s'il joue pour une équipe nationale, ce sera la France.
Ce sera la France, voilà. Ouais. Mais bon, après, lui-même laisse encore planer le doute, donc on peut pas en être certain. Tout ça est passionnant. Alors, d'autant que Nando, est parfois sorti du banc en tant que sixième homme. Alors, quel rôle pour Nando pour ces deux échéances en équipe de France? Là, messieurs, toutes les possibilités sont sur la table. Toi, qu'est-ce que tu souhaites, Fred? Je vous demande pas de me dire ce que va faire Collet selon vous. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour que l'équipe de France soit la plus performante possible?
Moi,
avec Nando.
Je pense qu'effectivement, il faut le faire sortir du banc.
Il faut le faire sortir du banc,
oui,
sixième homme.
Je pense que comme sixième homme de luxe qui va t'apporter sa vision, dès qu'il va rentrer en plus, il saura exactement ce qui s'est passé, il pourra s'adapter aux défenses adverses. Et ça te permet surtout de mettre un plus gros défenseur pour commencer le match, parce que souvent, commencer le match, c'est important. Donc je me dis que tu le fais commencer sur le banc, tranquillement, tu mets ton meneur,
à côté. Quel est ton début de match? Qui, pour l'instant, début de match, sans Nando, prend les shoots
principalement, ou
qui porte l'attaque de l'équipe de France?
Evan Fournier, au poste extérieur, je parle sur les postes extérieurs. Après, s'il y a Embiid qui arrive, si Wembanyama arrive, après, ça sera un petit peu différent peut-être, mais le joueur impactant offensivement, c'est Evan Fournier pour moi.
Après, il faut prendre en compte aussi les difficultés d'Evan. Alors, pas vraiment en équipe de France, mais dans sa carrière.
Pourquoi il faut les prendre en compte?
Pourquoi? Il y a une question de confiance, une question de réussite.
Demande au frère Hernan Gomez, est-ce qu'il joue en NBA? Et pourtant, ils ont défoncé le championnat d'Europe. Donc,
soit,
ça n'a aucun rapport.
Chaque cas est particulier.
Je crois pas qu'il faut s'inquiéter pour Evan Fournier.
Et vous savez que c'est pas mon joueur préféré, mais quel professionnel.
Mais préparation idéale, bosseur hors norme, il sait qu'il vit une saison difficile.
Très motivé.
Toujours très motivé par l'équipe de France. Irréprochable dans sa situation avec l'Inis. Quand il joue, parfois, on lui demande de jouer. Il est plutôt bon. J'ai aucune inquiétude sur sa préparation pour la Coupe du Monde, parce que si l'Inis, la saison se termine tôt, il va se préparer comme un fou. Il va pas prendre de repos. Il sait qu'il va en manque de terrain, donc il va se préparer comme il faut. J'ai aucune inquiétude sur le niveau d'Evan Fournier et l'implication d'Evan Fournier et son état de forme avec l'équipe de France.
Donc tu le fais sortir du banc, sixième homme, avec un rôle très important, bien sûr, une fois qu'il est sur le terrain. Mais
pour moi, ceux qui sortent du banc, le premier à sortir du banc, c'est hyper important.
Et tu prends pas en compte cette faiblesse actuelle au poste de meneur en te disant peut-être qu'on peut l'intégrer.
Alors déjà, Andrew Albici, il fait pas une mauvaise saison. Il est plutôt en forme. Il a plutôt de l'expérience. Et moi, je commence avec Andrew Albici. Alors, si tu veux savoir mon 5, je commence avec Andrew Albici, TLC, qui est en train de retrouver un petit peu des couleurs, et Evan Fournier. Voilà comment je commence sur les postes extérieurs.
Et après avec Rudy.
Bien sûr, après Gershon et Rudy sur.
D'accord.
Carrément. C'est-à-dire que Nicolas Batum n'est pas starter.
Non, je ne vais pas starter non plus.
Victor est sur le banc aussi. Mais Batum.
Parce que Nico, l'avantage qu'il a, c'est qu'il va pouvoir rentrer aussi en deuxième lame avec cette capacité de jouer 3-4.
Et on est sûr que Batum fait la Coupe du Monde?
Oui.
Sur à 100%?
Oui.
Okay.
Honnêtement, je réfléchis sur Nico Batum.
Après,
effectivement.
Fred, rappelle-toi la qualité de jeu de l'équipe de France à l'Euro cet été, sans Nando, sans Nico Batum.
Exactement. C'est très important.
C'était dramatique. Et que ces deux mecs-là sont des maillons essentiels
qu'on a entendu,
dans le jeu offensif.
Complètement d'accord avec toi.
L'extrait qu'on vient d'entendre de Nando, c'était dans Basket Time. Juste après cet Euro.
On a besoin un peu de lien offensif dès le départ. Donc Andrew, c'est très bien. bien, et ça a déjà été le cas plusieurs fois à la Coupe du Monde. Andrew avait starté et Nando était sorti de banc. Il a quand même fini avec le quatrième plus gros temps de jeu. Au JO, ça a été différent parce qu'Andrew était blessé au début de compétition, donc c'est Nando qui avait démarré. Moi, je pense que Nico est capital dans le 5 de départ. Dans
quel poste?
Sur le poste 3.
Poste 3.
Je pense que Victor va démarrer
à la place de Luau Cabarro.
Après, Thibautey Luau Cabarro, ça s'est pas très bien passé cet été en termes d'attitude
et
de comportement.
Ça s'est pas bien passé, mais il est en train de faire un petit peu profil bas, de revenir un petit peu. Moi, pour moi, je suis toujours partisan d'avoir une seconde unité très très forte. Et si t'as les deux mecs là qui sortent du banc, c'est peut-être.
Après, si t'as Nando et Gershon à sortie de banc, c'est correct. Hein.
Ben oui, c'est correct aussi, bien sûr.
C'est très correct.
Toi, Steve, pour le coup, tu partages l'avis de Fred sur le rôle de Nando sortie de banc.
Nando, moi, ça me dérange pas qu'il sorte du banc. Il l'a déjà fait à la Coupe du Monde à Tokyo, c'est très bien passé. Il avait terminé, je crois qu'il était quatrième plus gros temps de jeu. Il avait été très bon, je crois qu'il était à 15 points de moyenne. Et ça permet d'avoir un leader défensif dès le départ qui est Andrew Albici. Parce que si tu démarres Nando, Evan, Nico, et on sait qu'en aujourd'hui dans le basket européen il y a souvent des très forts meneurs de jeu, peut-être que tu exposes Nando un peu trop vite sur des défenses, des problèmes de faute, alors que Andrew connaît très bien son rôle. Il sait qu'il n'est pas là pour mettre des points, il sait qu'il est là pour organiser, pour mettre en place offensivement et mettre la pression tout terrain. Donc Nando qui arrive en deuxième lame, moi ça me paraît très bien, avec Evan qui est là, Nico Batum, Rudy Gobert et Victor Mbanyama. Ça me paraît très bien.
Tu commences directement avec Victor, toi?
Ouais, bien sûr.
Que je vous comprends bien, avant de donner la parole à Sacha.
Moi j'aime bien ma seconde unit, moi.
Bien,
quand il rentre Nando, c'est à la place d'Andrew ou à la place de Fournier?
Quand il rentre Nando, c'est à la place d'Andrew.
Oui, parce qu'il sort du banc.
Je pense qu'à la place d'Andrew. Parce qu'aujourd'hui, sur le poste de meneur de jeu, il y a trop d'interrogations. Quid de Thomas Hurtel? Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va pas jouer? Est-ce que Frank Ntilikina.
Pour l'instant, on compte pas sur Thomas Hurtel.
Est-ce que Frank Ntilikina peut jouer? Est-ce que Killian Hayes, qui n'a aucun vécu sur le basket de très haut niveau, FIBA, va être capable de mener l'équipe de France dans une compétition de très haut niveau? Là aussi, j'ai des interrogations là-dessus avec Nando Docolo. Pour moi, Vincent Collet va en faire son pilier de l'équipe.
Peu importe, c'est le leader de l'équipe.
Ouais. Leader, ce mot.
Ça dépend. Leader, ça peut être leader vocal, ça peut être leader défensif.
Il va faire partie des leaders offensifs.
Bien sûr, mais il sera leader dans les leaders.
Il a trop d'expérience de basket FIBA. C'est trop une science du jeu exact. Et Vincent Collet adore Nando Docolo pour que ça soit un joueur lambda. Ça n'a jamais été un joueur lambda et ça sera jamais un joueur lambda avec les Bleus, Nando Docolo.
Sacha, quel rôle pour Nando?
Eh ben, moi, je lui donnerais pas trop la main en vrai de vrai. Moi, je préfère voir un Nando justement qui est capable d'apporter son score et ses grosses couronnes dans les fins de match un petit peu chaudes, ou même dans les moments où on a des pannes d'inspi, parce que je trouve que c'est ce dont on manque en sortie de banc dans l'équipe de France. Pour moi, il faut qu'il rentre au poste 2 avec un meneur qui est assez athlétique et qui est en capacité de faire un peu plus de différence qu'Andrew Albici, je trouve.
Tu veux dire quand Fournier sort, c'est ça? C'est ça que tu veux dire?
Par exemple,
après tu peux jouer avec Nando 2 et Valent 3, Batum en 4.
Par exemple, mais pour moi, il faut qu'il soit poste 2 quoi qu'il arrive. Il faut qu'il ait il faut qu'il ait suffisamment de, comment dire, un peu moins de volume de jeu à monter la balle et à vraiment faire toute l'organisation pour pouvoir aussi se dédier au scoring, parce que on a énormément besoin de faire des différences, on a besoin d'avoir des inspirations. C'est un peu relou quand c'est que Evan Fournier qui a des inspirations individuelles alors que Nando est
surtout
très capable.
Surtout que t'es parfois dépendant aussi d'une mauvaise passe d'Evan Fournier, ça lui est arrivé.
Moi je trouve qu'il est mauvais quand tu dois faire la gestion et vraiment beaucoup circuler la balle. C'est
Evan,
pas son rôle. Oui,
Evan,
c'est pas.
Mais
c'est
le problème, c'est que l'année dernière, il n'y avait personne.
Voilà,
donc,
moi j'essaie de corriger ce problème.
Vous savez, avec Batum et Nando Colo, c'est pas le même Evan Fournier. Il a pas, les défenses sont pas concentrées à 100% sur Evan Fournier, qui est le seul danger extérieur.
C'est pour ça qu'il faut que ce soit vraiment, pour moi, un bac court plus un poste 3 où tout le monde où Nando Decolo, Fournier doivent apporter des points et ils peuvent un petit peu prendre la balle, distribuer les ballons. Mais il faut vraiment que le poste 1 soit un gros défenseur, comme tu l'as dit, Steve. Je pense que c'est hyper important. Je me demande encore, est-ce que c'est vraiment Andrew Albici qu'on veut en titulaire? Je me pose des questions.
Tu veux
mettre qui? Bah après, c'est vrai que
je regarde
la liste et c'est vrai que
arrête de l'agresser.
moi, j'avoue que sur certaines sorties en fenêtre de calibre, j'ai bien aimé ce qu'a fait Sylvain Francisco. Est-ce que c'est encore assez mature? Est-ce que c'est encore aussi assez impactant?
Moi je pense qu'il peut y aller.
Il a du chaud et du froid.
Mais de là à commencer, de là à starter, c'est chaud quand même.
Il est très très porté sur l'offensive aussi.
Moi je trouve qu'il a des cannes. C'est vrai que sur l'offensive, moi je trouve qu'au moins sur le premier pas, il peut créer la séparation, l'intervalle et donner plus de ballons là où Albici, ça va beaucoup être de l'accélération, ressort vite. Je trouve qu'il fixe un petit peu plus.
Frank Ntilikina, on compte sur lui encore ou c'est fini?
Non, moi je pense qu'il est encore dans les plans de Vincent Collet. À chaque fois qu'il a été en équipe de France, il a été plutôt bon dans son rôle, dans son registre.
Il était très bon.
Ouais, il était très bon à la Coupe du Monde. Il a ses qualités de capable de défendre sur plusieurs postes de jeu, d'organisation, de connaître le basket FIBA et d'être très collé compatible, Franck Ninikina.
Donc à voir. Ce que tu veux, c'est un défenseur d'élite. Tu peux critiquer autant que tu veux, mais c'est quand même un défenseur.
Avant de passer à la partie historique, on va faire un cas pratique. Alors comme à la fac, je sais que t'es pas allé à la fac, Steve, mais à la fac.
Pardon, je connais juste le terme amphithéâtre, mais je sais pas quoi ça ressemble.
Il y avait les amphis. Alors les cours d'amphi où de toute façon personne n'allait.
Comme un théâtre, ça.
L'amphithéâtre. Vraiment, t'as jamais mis un pied dans une université, d'accord.
Ah bah non.
Donc les cours d'amphi, c'est les cours magistraux, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que le prof.
C'est là où personne n'allait, en fait.
Exactement.
Il n'y a pas d'appel, il n'y a rien.
Et après, t'as les TD, les TD, c'est ça. Où tu es en classe de 25, comme au lycée. Où là, tu fais des travaux pratiques.
Ok.
Donc là, cas pratique.
Donc des TP, du coup. Pas des TD, quoi.
Si tu veux.
Ouais, mais c'est les travaux dirigés.
Bon, peu importe. Je vous donne un cas pratique. Nous sommes en demi-finale de la Coupe du Monde. Pas de Joel Embiid dans l'équipe de France.
En Philippines, donc. Faut prendre ça en compte.
Demi-finale face à l'Espagne, d'accord.
Il y a beaucoup de monde parce que c'est les Philippines.
Les États-Unis sont qualifiés pour la finale, d'accord.
Ils ont déjà gagné leur demi.
Ils ont gagné leur demi. Nous, on est donc en demi-finale face à l'Espagne. On est mené de 2 points. Ouais. Il reste 12 secondes. Ouais. Il n'y a pas de Joel Embiid. Il y a Wembanyama, il y a Fournier.
L'Espagne sont dans la pénalité ou pas? Au niveau des fautes.
L'Espagne est dans la pénalité, absolument. Et Nando est là, bien sûr.
Geoffrey Charpy arbitre ou c'est un vrai arbitre?
Donnez-moi le système de Vincent Collet pour gagner le match.
Le système de Vincent
Collet. À qui vous donnez la balle, qui prend le shoot et quel est le rôle de Nando?
Est-ce que ce sera un système déjà? C'est une non, question.
Peu importe, mais en tout cas, la situation est la suivante. Il reste 12 secondes.
Moi, je donne le ballon.
2 points de retard. L'Espagne dans la pénalité. Nando est sur le terrain. Qu'est-ce que vous organisez?
Moi, je donne le ballon à Nando qui crée, qui fixe et qui se ressort le ballon pour Evan Fournier.
Pour Evan Fournier qui shoot à 3 points.
Ça dépend le temps. Je pense qu'il va aller vite. Donc, il va rester le temps à Evan soit de shooter, soit de pénétrer, d'aller provoquer, d'avoir 2 lancers et il mettra les 2 lancers.
Je pense qu'il va avoir une succession d'écrans pour mettre le ballon dans les mains de Nando Docolo, qui est le plus grand tireur de lancers francs quasiment en Europe. Donc si jamais il y a une faute, t'es sur la ligne avec lui. Exactement. Et dans tous les cas, il y a 2 lancers pour aller en prolongation. Nando à la balle, forcément un pic va arriver, mais les Espagnols vont sortir très fort sur Nando Docolo pour qu'il lâche le ballon et qu'il empêche de le créer. Il va y avoir un short roll. Et là, c'est Victor Wembanyama sur le short roll qui va recevoir la balle au niveau de la ligne des lancers francs. La rotation va se faire et là, il va y avoir le choix entre Evan Fournier dans le corner à gauche ou Nicolas Batum dans le corner à droite. Il choisit Victor et il faut filocher pour la gagne.
Donc c'est après et Victor peut prendre le shoot.
Victor peut prendre le shoot, mais le problème c'est que Victor veut jouer la gagne, donc il va forcément trouver le tir à 3 points.
Puntos. Pas de Nando donc.
Et comme Nico Batum est spécialiste du 0 degré, je pense que Nico va se retrouver
la tête
sur le corner.
Un peu penché,
on est quand même d'accord sur le principe, c'est Nando qui a le ballon au départ.
Moi c'est pareil, démarquage de Nando, base de pick and roll avec Wembanyama qui peut plonger et Nando qui s'écarte, soit il peut prendre le 3 de la gaine, moi je le vois prendre le 3 de la gaine, s'il est trop défendu il décale sur Wembanyama, de toute façon tu peux lui envoyer n'importe où dans les airs, à tout moment ça peut partir en alley-oop, même avec la faute, et puis si jamais ça se passe avant, Wembanyama qui pourrait décaler, mais là pour moi c'est Nando qui fait le choix et qui fera le bon choix, et il peut prendre le shoot ou faire
il peut prendre le shoot.
Et comme les Espagnols, comme au Barça ont acheté les arbitres, il y aura une faute offensive et balle rendue aux Espagnols. Et hop, match pour la troisième place.
Okay. Et alors, vite fait, sans faire le tour de table, juste Steve, s'il y a Joel Embiid, qu'est-ce qu'on fait?
S'il y a Joel Embiid?
Ouais, qu'est-ce qu'on fait?
Là, c'est pas pareil, mon grand.
Il n'a pas shooté à 3 points, Jojo.
Ah bon? Un pick and pop avec Joel Embiid à 3 points, tête de raquette. Je veux voir comment les Espagnols vont défendre ça.
Tu joues le pick and pop, là?
Tu préfères Victor ou Embiid?
T'assures pas la prolongation?
Le problème, c'est que si t'as Victor Wembanyama, pick and pop avec Joel Embiid qui tire à 3 points, et Victor Wembanyama qui est là pour mettre le couvercle avec ses 2 mètres.
Ah, c'est pas mal ça.
Moi, pick and roll avec Joel Embiid, il roule, on lui donne le ballon, s'il est pris à 2, il ressort le ballon sur Wembanyama à 3 points.
Bon, en gros, quand il y aura Joel Embiid,
tu peux faire la passe directe à Joel Embiid et tu mets Wembanyama en ligne des lancers francs et il attend. Ouais,
allez, c'est un spécial Nando Docolo dans Basket Time à télécharger sur rmc.fr, la partie historique, les Français qui ne se sont pas imposés en NBA.
9 secondi, 8, 7, 6. Se lo gioca Rigaudot, il capitano. Segna! Rigaudot! Antoine Rigaudot, segna!
Outside touch by the 7-footer, Vincent Poirier.
Poirier, a nice move. And banks it home.
Another up fake! Got her left hand!
So Jackson, Bentle.
And while we were in break, the Hawks were on the clock. And they took Isaiah Cordigna. A guard from France.
Yeah, trailer to Lesor. He just glides to the basket. Really good vision by Punter, as he knew Lesor was the trailer.
Les Français, les grands joueurs français qui ne se sont pas imposés en NBA, on peut dire que c'est le cas de Nando, qui est allé tenter sa chance, que Greg Popovich d'ailleurs avait accueilli comme il se doit, hein. on peut pas dire qu'il n'ait pas eu sa chance, mais ça n'a pas fité. Alors en revanche, quelle carrière en Europe, bien entendu. C'est un cas particulier, mais vous allez me parler d'autres grands joueurs français qui ne se sont pas imposés en NBA. Fred, quel est ton choix ?
J'ai choisi Antoine Rigaudeau.
Antoine Rigaudeau,
parce
alors,
que pour moi, il représente...
C'est le joueur, le grand joueur français qui ne s'est pas imposé en NBA.
Exactement.
À Dallas, hein, on est d'accord.
À Dallas, on est d'accord. Déjà, Antoine Rigaudeau, il a failli ne pas faire de basket. Son frère et lui voulaient s'inscrire au foot, il n'y avait plus de place. Donc, coup de chance, la salle n'est pas très loin et il va s'inscrire au basket. Coup de chance pour le basket français. Il signe finalement à Cholet et débute en National 1 à 16 ans et demi. D'accord ? À 18 ans, il tourne déjà à 11,5 et 5 passes décisives dans la saison 89-90.
À Cholet ?
À Cholet. À 19 ans, il a 15,7 passes. MVP français 91, 92, 93, 94. En 95, il décide de partir à Pau parce qu'il veut grandir, parce qu'il pense qu'il a fait le tour à Cholet. Il pense que il aura pas mieux. Il veut surtout essayer de jouer l'Euroleague et il va directement gagner le championnat
dans le plus grand club français
et dans le troisième plus grand club français et gagner le championnat et gagner son cinquième titre de MVP. Ensuite, le Kinder Bologne lui fait les yeux doux. Il va arriver au Kinder Bologne, équipe coachée par Ettore Messina. Là-bas,
on peut dire qu'il met l'Italie à ses pieds.
Il y a 2-3 petits joueurs en plus avec lui. Hein. Danilovic, Nesterovic, Skonokini, Savic. Et dès la première année, ils vont gagner l'Euroleague avec comme meilleur marqueur Antoine Rigaudeau. 14 points. Ils vont gagner le championnat aussi. Il devient le roi. Le roi Rigaudeau.
C'est pour ça qu'il était surnommé par les Italiens.
Exactement. En 98-99, il est meilleur scoreur de l'Euroleague. Ils vont perdre la finale contre Kaunas cette même année. Il scorera 27 points. Il va gagner ensuite le titre ULEB avec toujours cette même équipe de Bologne. ULEB, alors pour expliquer, c'était la scission entre la FIBA et l'Euroleague actuelle. Enfin, c'était un petit peu bâtard entre les deux. Il est trop fort. Il est juste trop fort. Mais il va décider finalement, vu que son équipe de Bologne commence à avoir des difficultés, de signer à Dallas.
Mais alors, sur le tard, hein, on est d'accord.
Il a 31 ans quand il signe à Dallas. Et c'est vrai que les sirènes de la NBA l'avaient déjà appelé, mais lui, il voulait se concentrer sur...
Qu'est-ce qui s'est passé en NBA pour que ça ne fitte pas ?
Il arrive là-bas et ça va trop vite, la NBA, pour lui. Physiquement, il est complètement en dessous. Il est décalé en poste d'ailier. Il est physiquement très, très dans... il est vraiment dans le dur physiquement. Clairement, il y a des super athlètes en face de lui. Il ne jouera que 11 matchs pour 8 minutes de jeu. 1,5 points, 0,5 assists, 23% à 2, un seul tir à 3 points sur tous ces matchs. Finalement, il va même regarder les playoffs du banc, le roi Rigaudeau. Donc, c'est incroyable. L'aventure tournera court. Don Nelson va dire que c'est fini, tout simplement. On connaît un petit peu le caractère du bonhomme. Il va retourner à Valence, où il va reprendre un peu de couleur. Il retournera à 14,7 points de moyenne. Et sera éliminé par l'Unicaja Malaga. Bonne équipe de basket. et ensuite, voilà, il va prendre sa retraite suite à une blessure en tendon d'Achille à l'été 2005.
La question,
2005.
C'est est-ce que Rigaudeau aurait pu s'imposer en NBA ? Est-ce qu'il n'avait pas le jeu pour ou est-ce qu'il y allait trop tard ? Est-ce qu'il y a une raison ?
Mauvaise utilisation.
Est-ce qu'il y a des regrets ?
Décalé sur un poste qui n'est pas le sien.
À l'époque, le scouting était catastrophique. Tu veux venir Antoine Rigaudeau pour jouer sur un poste 3 et le considérer exclusivement comme un shooter à rester dans le corner. Alors, sur le poste de meneur, ils avaient Van Exel et Steve Nash, déjà les Mavs. Il y a une énorme erreur d'utilisation à l'époque. Des Européens étaient considérés uniquement comme des mecs à droite qu'on mettait en bout de chaîne pour tirer.
Novitski et Nash étaient super contents quand ils ont pris la signature de Rigaudeau.
Mais utilise-le comme il faut. Et puis on arrive dans une époque où la NBA est aux antipodes de ce que produit le basket européen. Aujourd'hui, le basket européen, c'est un petit peu plus rapproché de la NBA. Mais à l'époque, le basket européen, c'était un jeu collectif, des attaques en 24 secondes. On allait au bout des systèmes. Il y avait une utilisation du ballon et des joueurs. La NBA à l'époque, c'était du 1 contre 1, des qualités athlétiques.
Il aurait pu s'imposer, tu penses, ou c'était mort?
Je pense qu'il aurait pu jouer dans un meilleur collectif avec une meilleure utilisation.
Comme d'habitude, la NBA, au bon moment, au bon endroit.
Voilà.
Et c'était pas du tout le bon endroit.
Ni le bon moment, ni le bon endroit.
Pour terminer avec lui, il rentre au Hall of Fame en 2015, la même année que Michael Jordan. Il est vice-champion olympique en 2000. Il a une médaille de bronze en 2005 et il a gagné 2 fois l'Euroleague.
Parfait. Steve, qui est le joueur français, le grand joueur français qui ne s'est pas imposé en NBA, dont tu veux nous parler?
Ouais, moi, c'est un garçon que j'adore, c'est Vincent Poirier. C'est un garçon qui démarre le basket assez tard, formé à Boulogne-le-Valois. Il éclot tardivement en 2015 en première division en France à 23 ans sous la houlette de Freddy Fautou. Il avait une belle doublette d'ailleurs à l'époque avec Louis Labéry dans la raquette francilienne. Il a tourné un petit peu autour de la NBA puisqu'il s'était présenté à la draft en 2015 sans être sélectionné. Il avait fait quelques Summer League en 2016 et 2017 2017 avec Orlando et Brooklyn. Sans succès, il part en Euroleague après Boulogne-Levallois à Vitoria. Il a 25 ans, la deuxième année, les meilleurs rebondeurs de la compétition. Et là, les Celtics décident de signer pour 2 ans pour compléter leur raquette déjà bien remplie avec Enes Kanter, Robert Williams et Daniel Theis. Là-bas, il retrouve un autre Français, Gershon Yabusele. Vincent Poirier arrive avec pas mal d'ambition, puisque pour lui, il était hors de question de cirer le banc, puisqu'il avait montré déjà que c'était un joueur dominant dans la deuxième meilleure ligue au monde, l'Euroleague. Mais la première saison avec Boston, il joue que 21 matchs, 6 minutes de moyenne. Il va même faire quelques matchs en G-League. C'est dur parce qu'il avait choisi Boston, alors que sur le côté, il y avait un énorme contrat avec le CSKA Moscou qui l'attendait, mais il voulait tenter l'expérience NBA. Il est échangé à OKC, mais il n'a pas vraiment le temps de trouver d'appart, parce qu'à Oklahoma, il est échangé dans la foulée aux Sixers contre Al Horford et les droits sur Vassili Micic. À 27 ans, il débarque aux Sixers avec Doc Rivers dans une équipe qui joue le titre, comme sa précédente équipe aussi, les Celtics. Problème, c'est que devant lui, il a 3 big men, son futur coéquipier en bleu, mais ça, il ne savait pas encore, Joel Embiid, Dwight Howard et Tony Bradley. 10 matchs joués, 3 minutes de moyenne, un nouveau transfert à New York où il sera coupé direct. Il voulait absolument faire les Jeux Olympiques de Tokyo avec la France, il avait besoin de temps de jeu, donc il rentre en Europe du côté du Real Madrid. Ça fait 3 saisons maintenant.
Au Real, il cartonne quand même.
Quelle tristesse d'aller au Real Madrid.
Hein, ouais, quelle tristesse, c'est devenu un très bon pivot d'Euroleague. Le statut qui était déjà le sien avant de traverser l'Atlantique.
Il va peut-être gagner l'Euroleague.
Oui, bilan NBA, 32 matchs joués en 2 saisons et une certaine rancœur contre Doc Rivers qui n'a même pas daigné lui envoyer un message pour lui souhaiter une bonne continuation, alors que Doc Rivers l'a fait pour d'autres garçons qui ont quitté les Sixers.
Sacha, quel est ton choix ?
Alors, moi, ça a été très difficile. J'allais prendre beaucoup de joueurs français qui avaient été draftés en NBA et qui n'ont pas réussi à passer le cut des Summer League, etc. Mais finalement, je vais parler de Michael Gelabal, donc ancien joueur de Cholet qui a été drafté en 2005, 48e place par les Supersonics de Seattle. Ceux qui ne savent pas, ça a été remplacé par OKC maintenant. Donc en fait, jeune joueur français drafté en NBA qui rejoint une franchise dans laquelle il y a déjà un autre joueur français qui s'appelle Joan Petro. Il va se retrouver dans une franchise qui malheureusement draft beaucoup de profils qui peuvent aller sur ses postes, et ça devient un petit peu compliqué puisque Kevin Durant arrive très très vite, Jeff Green arrive, on est sur un ailier qui est plutôt athlétique, qui est capable de shooter, qui a des bons fondamentaux basket, qui bouge bien je trouve, et qui finalement n'arrivera pas à s'imposer. Alors est-ce qu'il est trop jeune, est-ce que l'équipe est aussi très très jeune, et finalement il y a beaucoup de prospects américains donc il n'arrive pas à se faire sa place tout simplement. Il reste toujours en train de miroiter entre la NBA et l'Europe, donc il retrouve il passe par la ligue de développement, la D-League de l'époque, il revient Cholet, il s'impose à l'ASVEL, c'est en 2010-2011. Après, il vivote un peu, il tente quelque chose en Belgique, finalement son contrat ne se fait pas, il part à Moscou, il a fait quasiment tous les clubs qui existent en Europe et il a été, je trouve, assez performant. Aujourd'hui, il évolue du côté de Chalon, ça passe par la Pro B, mais c'est quelqu'un qui a apporté aussi à l'équipe de France, je trouve. Il a retenté une pige en NBA aux Timberwolves du Minnesota qui prenait un petit peu tout le monde à ce moment-là, et surtout pas mal d'anciens, où il tourne à 5 points. Mais je pense qu'il était capable de plus, puisque tu vois qu'en Europe, ça tombe plutôt autour des 10 points. Et l'équipe de France a toujours fait le taf en sortie.
Alors là, pour le coup,
un des joueurs fétiches de Božidar Maković, hein, ouais. Il l'adorait vraiment.
Il a fait venir au Real, ils sont champions d'Espagne avec lui.
Lui, il était à une époque où c'était pas comme tu l'as décrit pour
Rigaudot.
C'est une époque où d'autres Français se sont imposés.
Oui, lui, il a pas.
Il est sur la bascule.
Il est dans l'entre-deux. C'est pas
il est pas si cata, mais on en attendait peut-être un petit peu plus parce qu'il avait le morphotype NBA, poste 3, grand, très athlétique, bon shooter à 3 points, on se rappelle avec l'équipe de France dans le corner. Hein,
et son très jardin. Solide, même si ça se voit pas.
Exactement.
Très solide.
Bon défenseur, des longs segments, il avait le morphotype type pour s'imposer en NBA. Et il y a une très bonne anecdote, c'est qu'à un moment, il fait un training camp avec les Lakers, je sais pas si vous vous rappelez de ça, et Kobe Bryant qui dit dans un podcast, on lui pose la question, est-ce que tu as le souvenir d'un garçon qui était effrayé en jouant contre toi? Et il dit, on avait ce joueur qui a fait le training camp avec nous, Mac Gelabal, c'était un jeune, même s'il avait été déjà dans la ligue auparavant, j'ai tout de suite vu qu'il était nerveux. On avait eu une altercation quand il jouait à Seattle, et là il devait m'affronter tous les jours à l'entraînement. Il était vraiment très très nerveux. J'ai mis un point d'honneur à faire que son camp d'entraînement soit un enfer.
Oh bâtard.
Ça aide.
C'est bien ça, c'est un bon accueil. Ouais,
où tu vas. Juste un mot, qui sont les joueurs donc, dont tu as parlé, que tu as évoqué dans les training camps, mais qui n'ont pas forcément joué de match NBA?
C'est deux joueurs qui avaient retenu l'attention des Hawks, qui tentaient des aventures en Europe
à ce moment-là, c'est Isaiah Cordinier, qui aujourd'hui évolue du côté de la Virtus Bologne et qui est un couteau suisse excellent, hyper athlétique, mais bon, si là il s'est blessé, gros défenseur et qui est capable d'apporter quelques points. Et Alpha Kaba, qui est un nom qui parlera beaucoup moins, qui a été juste ultra dominant il y a 2 ans en jouant en Turquie, en Gaziantep, où il tournait en double-double. C'était clairement le pivot français, voire le pivot, un des pivots les plus dominants en Europe. Bon, après, il jouait pas au plus haut niveau européen, donc c'est pour ça qu'il avait des stats de fou. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais voilà, c'était les deux noms qui m'avaient parlé parce que pour le coup, c'était des jeunes joueurs prometteurs français qui pouvaient débarquer en NBA et finalement, bah, ils sont toujours aussi jeunes, mais ils sont en Europe maintenant.
Et pour finir, juste parce que tu as évoqué Micić, Vasilije Micić, il y a aussi des grands joueurs étrangers.
Ils sont jamais allés en NBA.
Qui soit n'y sont pas allés, soit ne sont pas imposés. Il y a Teodosic aussi.
Dans... Teodosic, ouais, qui ne s'est pas imposé.
Juan Carlos Navarro.
Même si Juan Carlos, il ne fait pas une saison si
calme.
Il joue avec Pau Gasol, il ne fait pas au par bénéfice.
Il a plus envie. 10 points de moyenne.
Il a plus envie. Sergio Lou a longtemps été très convoité. À un moment, les Rockets lui ont offert un énorme contrat à Sergio Lou. Il a toujours refusé de partir en NBA. Spanoulis a été en NBA, je crois, à Houston, il me semble.
Oui, mais ça a été très succinct.
Ça a été très succinct.
Exum, c'est pas mal. En NBA, il était beaucoup de matchs. Je trouve qu'au Barça, l'année dernière, il était très bon.
Il s'est croisé 2 fois dans Exum, dans la Ligue.
Ouais, mais je veux dire, quand il est censé arriver en NBA dans Exum, c'est le LeBron australien. Genre, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est censé être un truc de malade mental.
Allez, c'est un spécial Nando De Colo. Ouais. Et on va terminer avec un quiz sur Nando De Colo.
Ah ouais ?
Ah oui ?
Ah oui !
Vous maîtrisez.
Anglais facile et rapide. De nombreux mots anglais sont identiques ou similaires aux mots français. La différence est la prononciation. Hey
guys, come on, help me. What are we doing here?
Congratulations on getting your exam.
Vous maîtrisez la carrière de Nando.
Voilà,
oui, je pense.
On la connaît.
Je pense que vous la maîtrisez très bien. Alors, on va démarrer avec un tour de table. Donc, vous répondez chacun votre tour, hein, bien entendu. Le défi est de me dire oui ou non, tout simplement.
Ah oui, d'accord.
Okay. J'ai joué avec Nando De Colo. Oui ou non. Voilà. Okay. On démarre avec Fred. Fred, t'es prêt?
Oui.
André Kirilenko, j'ai joué avec Nando De Colo, oui ou non?
Non.
Absolument. Alors, tu as dit au hasard, mais il y avait un petit piège parce que André Kirilenko est revenu au CSKA Moscou, mais à une époque où Nando n'était pas là. C'est bon. Et Steve, je vois Steve qui est un peu dégoûté.
Non, pas du tout.
Fred a acheté la pièce en l'air, pile ou pas. Il a dit non, il aurait pu dire oui. Donc, non, il n'a pas joué avec Nando De Colo. Mike James, Steve.
Mike James?
Oui.
À CSKA Moscou? Au CSKA Moscou, Mike James, il remplace Nando De Colo, donc il n'a pas joué avec.
Excellent, bravo, il a tout, il a la bonne réponse et l'explication. Ça fait un point quand même, ça veut pas plus, mais c'est la bonne réponse. Puisque Mike James arrive quand Nando part du CSKA Moscou. Sacha, Kawhi Leonard, j'ai joué avec Nando, oui ou non?
C'est pas CSKA Moscou. Hein.
C'est très possible, aux Spurs ou à Toronto, parce que je crois qu'il fait les deux en plus, Nando.
Oui, il fait les deux.
Donc, bah, je vais dire oui.
Alors, c'est la bonne réponse. Il y avait un petit piège puisqu'il a joué aux Spurs avec Kawhi, mais pas à Toronto. Donc, c'est bon. Vous avez tous le premier point. Il y a encore une série. À toi, Fred. Demar DeRozan, j'ai joué avec Nando, oui ou non?
Non.
Et ici, au Raptors, justement, en 2014. Steve, oui. Devin Booker, j'ai joué avec Nando, oui ou non?
Devin Booker, il a joué. Alors, c'est lequel? Parce qu'il a joué au Fener avec un Devin Booker.
Mais oui, c'est Devin Booker.
Devin Booker, tu veux me carotte, toi? C'est lequel, Devin Booker?
Devin Booker, oui.
C'est lequel, Devin Booker?
Non, mais je t'accorde le point. D'accord. Parce que j'espérais que tu dises non, bien entendu. J'espérais que tu dises non, parce qu'il a absolument jamais joué avec Devin Booker de Phoenix, mais il a joué avec le pivot du Fener l'an dernier qui s'appelle Devin Booker.
T'as une banane, hein. C'est pour ça que t'as commencé par Fred, parce que la question tombe sur moi.
Bien sûr. Mais c'est bon, tu as le point. Et enfin, Sacha, Luis Scola, j'ai joué avec Nando, oui ou non?
Luis Scola, je vais dire non.
Et tu as bien fait parce qu'il n'a pas joué, lui aussi est arrivé l'année d'après.
Il boit du coca.
Au Raptors. Donc c'est Fred qui a un point de retard. Mais on continue la série, cette fois avec des joueurs français. Que des joueurs français.
Toujours ou non?
Oui ou non, j'ai joué avec Nando en club. Hein. On ne parle pas de l'équipe en de club, France parce que sinon ça fausse le truc. Fred, Fabien Causeur, est-ce que j'ai joué? Oui ou non, avec Nando De Colo. Fabien Causeur.
Ça peut être Cacholet, bon.
Ouais.
Ça peut être Cacholet.
Non.
Non, il n'a pas joué, absolument, mais ça s'est joué à pas grand-chose, ouais, hein, là encore.
C'est pour ça que je calcule.
À une saison près, en 2009. Boris Diaw, Stephen.
Boris Diaw?
Oui.
J'ai joué avec Babak aux Spurs, oui.
Aux Spurs, oui, bien sûr. T'as hésité ? Rodrigue Beaubois, Sacha. Est-ce que j'ai joué avec Nando De Colo en club, hein, bien
non.
entendu. Si, au Cholet.
Mistake, à Cholet, mon grand.
Mistake, big mistake. Aïe, 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 aïe. Fred, Geoffrey Lauvergne. Est-ce que j'ai joué avec Nando en club ? Jojo, Jololo. Ah, réfléchis pas trois heures, c'est oui ou non. Hein. Il n'y a pas mille solutions. Hein, si tu fais comme tout à l'heure au hasard.
Non.
Et bien sûr que oui, à Fenerbahçe.
Ah oui, oui, au Fener.
Mais attends, mais on parle de qui ? On parle de Lauvergne et Nando.
Bien oui. sûr.
Mais même cette année.
À l'Asvel, oui, ils ont joué ensemble.
c'est même.
Genre ouais. maintenant, là, tout de suite, tu vois.
T'as raison, Sacha.
En plus, t'avais zappé ça.
T'as raison, Sacha. Ça aurait...
ouais,
après,
c'est
accordé
aussi.
Un point de plus. Steve, oui. Steve Chikambu.
Oui, ils ont gagné la semaine des As à Cholet ensemble.
Excellent, bravo. Et enfin, Flo Pietrus, Sacha.
Ah là 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 là. Flo Pied. Je vais dire non.
À Valence.
À Valence, ah, bien sûr.
Ah, donc... mais t'étais invité à tous les matchs aussi, Steve, ça compte pas.
Hein donc Steve a fait le break. Hein. 4 points pour Steve, 2 points pour Sacha, 2 points pour Fred. Qui a déclaré Dany était un meilleur athlète que ne l'est. Pardon, je recommence. Dany était un meilleur athlète que ne l'est ce gamin. Et Donaldson. Il était un peu plus costaud.
Greg Popovich. Danny Green.
Danny Ainge.
Ah, Danny Ainge.
Quand même, il a comparé à Danny Ainge lorsqu'il est arrivé aux Spurs. En disant, quand même, un bel hommage de Greg Popovich. Il est bien dans le groupe, il prend les bonnes décisions. C'est un bon finisseur, il va être agréable à voir jouer. Ça, c'était avant, bien sûr.
Après, le problème, c'est qu'il arrive aux Spurs, il y a énormément de monde. C'est une équipe qui prétend, ils gagnent, ils sont champions de la Conférence Ouest en 2013. C'est une équipe qui est prétendante au titre NBA, donc compliqué de s'imposer.
Et qui va en finale.
Oui,
fameuse finale contre Miami. Donc, ça fait 5 pour Steve. Je vous fais écouter un extrait sonore d'un match et vous devez me dire tout simplement de quel match il s'agit.
C'est un match NBA déjà.
C'est la FIBA ça. L'accent du commentateur, c'est pas
c'est la finale CSKA Moscou 2016.
2019
non.
C'est la Coupe du Monde 2019 France États-Unis.
Excellent. World Cup 2019 France États-Unis en quart de finale. Bravo.
Quand on les tape.
Exactement. Quand on les tape avec il y avait qui dans cette équipe?
Kemba Walker,
Donovan Mitchell.
Donovan Mitchell qui met 29 je crois.
Merde, Chris Middleton.
Il y a quoi? Tatum, Farid et tout non?
Ouais. Non pas Farid je crois. Il y a
Plumlee.
Il y a Plumlee ouais.
On en est à 6 points pour Steve, 2 points pour Sacha, 2 points pour Fred. On refait un tour de table. J'ai plus ou moins de sélections en équipe de France que Nando De Colo. Je ne vous donne pas le nombre. Non mais oh toi tu vas pas sur ton ordi toi.
Mon ordi oh. Sérieux que c'est... C'est moi, c'est le
je ne vous donne pas le nombre de sélections de Nando, car ce serait moins intéressant. Nous allons démarrer. Alors, avec qui va-t-on démarrer ? Nous allons démarrer.
C'est plus ou moins ?
Plus ou moins de sélections. Tout simplement que Nando De Colo. Allez, on démarre avec Sacha. Jacques Monclar. Jacques Monclar, plus ou moins de sélections que Nando.
Insulté.
te trompe pas. Hein.
Je vais. Ouais, mais
si tu sais pas, dis le truc qui va faire en sorte que tu te fâches pas avec Jacques.
Bah, je le connais pas. Écoute, Jacques, tu as moins joué et moins marqué que Nando Deco en équipe de France pour moi.
Mais
il a plus de 200 sélections, Jaco.
205 sélections, Jaco. Fred, Jean-Michel Sénégal. Il est dégoûté, Fred. Ouais,
Jean-Michel Sénégal, c'est chaud. J'aurais préféré celle de Monclar. Je pense que Nando, ça doit être. Ça doit être moins que Nando.
Et c'est plus, il en a même plus que Jacques Monclar.
Ouais.
210 sélections, Jean-Michel Sénégal. Steve, Jim Bilba, plus ou moins de sélections que Nando De Colo ?
Jim Bilba, je crois que c'est moins.
Jim Trampoline Bilba,
c'est moins.
Bonne réponse de Steve. Sacha, Tony Parker, plus ou moins de sélections que Nando ?
Ah, je vais dire moins.
Eh bien, t'as bien fait. Ça se joue à 4 sélections près. Il a 4 sélections de moins que Nando, Tony Parker. Fred, Jean-Claude Bonato. Ah oui, là, c'est les grands classiques. Moi, je comptais sur toi, Fred, l'équipe de France.
Il en a moins.
Il en a moins, absolument. Bravo. Il en a 11 de moins. Et enfin, Stéphane Ostrowski.
Stéphane Ostrowski ?
Ah oui, c'est ça. On parle de Stéphane Ostrowski. Est-ce qu'il y en a plus ou moins que Nando ?
Stéphane Ostrowski. Je vais dire plus que Nando De Colo.
Il en a plus que Nando. C'est un sans faute pour Stephen pour l'instant. 193 sélections. Il en a combien, Nando ?
184. 185.
185, exactement. Donc là, il y a une énorme différence. On est à 8-3. 8 points pour Steve, 3 pour Sacha, 3 pour Fred. Alors là, c'est très simple. Nando est le meilleur marqueur de l'histoire des Coupes d'Europe. Êtes-vous capable ? Alors, comment on va faire ce... Et donc, alors, je sais ce qu'on va faire. On va démarrer par Sacha.
Pour faire quoi ?
Le top 5 des meilleurs marqueurs de l'histoire des Coupes d'Europe.
Coupe d'Europe ou l'Euroleague ?
Coupe d'Europe.
Coupe d'Europe.
Vous me donnez un nom chacun. Il y a 4 points à prendre, donc vous pouvez prendre un point de plus que Steve. Sacha, je t'écoute. C'est pas facile, mais bon, si vous avez suivi l'actualité, vous les connaissez.
C'est le mec qui l'a battu déjà.
Ouais, c'est ça.
Déjà pour commencer.
Ah, mais j'ai même oublié son blaze, au mec, hein, pour te dire.
Ah, c'est pas gagné. Hein.
Je vais pas la faire pour toi, par contre.
Ouais, c'est non, après, tu peux te retrouver.
Trop chaud en mode joueur emblématique.
Après, c'est une, mode de, c'est une partie de la région ouais, espagnole. non, ça marche, ça, non.
Je vais prendre Navarro.
C'est excellent, c'est le cinquième. Donc, un point pour Sacha. Fred.
Bodiroga.
Bodiroga, bien sûr, c'est bon. Steve.
Spanoulis.
Spanoulis, c'est bon, bravo. Et Sacha, est-ce que tu peux marquer un point de plus que les deux Lascar? Il reste un nom.
Célis, Kélis, comment il s'appelle?
Célis.
Ah, c'est pas bon.
C'est une région espagnole, ça, Célis.
C'est pas bon.
Galis.
Je peux pas te l'accorder, là.
Bah, Nikos Galis.
Ah ouais, je donne à Fred.
Oui, non, mais c'est mérité.
C'est mérité, on est d'accord. Allez, on enchaîne et ensuite on va finir. Je pense que Steve a déjà gagné, là. Je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas trop de suspense. Draft 2009, la draft de Nando, 53e. Qui est l'autre Français drafté cette année-là ?
C'est Rodrigue Bobois.
Absolument. Rodrigue, drafté par les Spurs, envoyé à OKC, puis transféré à Dallas. Voilà. Cette année-là, Blake Griffin est drafté numéro 1. James Harden, numéro 3. C'est une énorme draft.
C'est Hachim Tabit, le 2.
Ah, c'est Hachim Tabit, ouais. Le 2, mais ce n'était pas la question. Aïe, aïe, aïe. Quel est le choix numéro 9 des Toronto Raptors ?
En 2009.
Ah, c'est DeMar DeRozan.
Ouais, c'est DeMar DeRozan. C'est une boucherie, là, ce quiz sur Nando. C'est une boucherie. Est-ce qu'on fait la dernière question? Oui. Multipoint hyper difficile.
Tu veux que je la pose, la question?
Vous la voulez ou pas? Elle est hyper difficile et il ne va rien se passer. Donc, ouais, est-ce qu'on arrête là? Tout le monde.
Oui, on l'a fait. Oh.
Chacun a des trucs à faire. Voilà, les gens qui nous écoutent, ils peuvent peut-être, je sais pas, aller voir.
Peut-être que les gens qui nous écoutent, ils ont envie de jouer, oui. D'avoir ce qu'ils connaissent la réponse.
D'accord. Alors, attention. Donc, Nando a remporté 2 fois l'Euroleague avec le CSKA Moscou en 2016 et en 2019. Est-ce que vous êtes capable de me donner les joueurs qui ont fait le doublé? Ceux qui étaient dans les deux équipes en 2016 et en 2019.
Oh merde.
Ah, c'est très dur. Hein.
Non. Je n'en suis pas capable.
Moi, je crois que j'ai.
Alors,
moi, j'en ai un, je pense.
T'en as un ?
Kyle Hines.
Kyle, ouais. Hines, c'est bon, je t'accorde un point.
Moi, je crois que j'ai Corey Higgins.
Corey Higgins, c'est bon, un
je
point.
Je crois que j'ai Nikita Korbanov. Pardon.
Sacha.
Ah non, moi, j'en ai aucun. Je vais être très honnête.
Fred, t'en as un autre ou pas ?
Korbanov, moi, je pense qu'il a fait les deux.
Pas mal.
Mais bon, c'est bon. Steve, il en reste deux.
Il
en reste deux. Alors, je peux t'aider un peu quand même. Pas très connu. Hein. Il y en a qui joue actuellement à Krasnoyarsk et l'autre à Kazan. Mais celui qui joue à Kazan a fait presque toute sa carrière au CSKA Moscou. C'est un ailier fort.
Russe ?
Kriapa ?
Non, c'est pas Kriapa.
Voroncevich ?
Voroncevich, exceptionnel, je te l'accorde. Il en reste un dont...
Koulagin ?
Koulagin, oh là là, c'est un festival. Là, il faut se prosterner.
Mais il faut se prosterner, sauf que c'était à moi de jouer.
Tu l'avais, Koulagin ? Waouh ! Écoute, si, Fred, si tu me dis que tu l'avais, je te crois et je te l'accorde.
Ouais.
Tu l'avais ?
Non. Mais là, n'est pas la question.
Par principe.
Écoute, t'as bien fait de me dire non parce qu'il y a deux Koulagin, donc je t'aurais demandé
Dimitri.
Non. Non, c'est Mickaël.
C'est Mickaël. Voilà.
Bravo, Stephen, ça a été impressionnant. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.